Le sapin empoisonné. Déjà l'ombre du ciel blanc d'hiver, sans étoiles, planait sur les maisons, les choses, les hommes. La lune était venue en avance. On tirait les rideaux à 14 heures. On fermait les volets à 16 heures. L'obscurité se préparait à tout envahir. L'après-midi n'était même pas fini quand la nuit tomba sur le quartier. Sauf que ce jour-là, le quartier ne se laissa pas faire. Au contraire, la nuit était attendue avec impatience. Le quartier lui avait tendu un guet-apens. C'était le même piège tous les ans. Mais la nuit ne se doutait de rien, parce qu'elle ne doutait surtout pas d'elle, d'elle qui tombait tous les jours, sûre et certaine. La nuit tomba donc bêtement, attendue. Et aussitôt le quartier s'illumina. Noël. La lune s'en souvint, mais trop tard, elle pâlit. Personne ne lèverait les yeux sur elle ce soir, elle était si terne face aux lampions de la ville. Simultanément, des milliers d'étoiles surgirent. Sur les toits, dans les arbres, collés aux vitrines, derrière les volets. En rivière, en collier, en diadème, en boucle, en pendentif, en couronne. La fée Noël, en un éclair, transforma le quartier Cendrillon en princesse parée pour le bal. Comme quoi la nuit n'est pas une fatalité. Il faisait froid, un froid solitaire et fier, un froid qui enferme les gens chez eux, un froid qui aime que l'on parle de lui, si possible au superlatif. Le froid tomba lui aussi sur le quartier, un peu avant la nuit. Et aussitôt, les gens sortirent. Le temps ne se souvenait pas d'avoir été aussi glacial, et pourtant, il ne se rappelait pas avoir vu autant de monde dans la rue. Des gens couverts de la tête aux mains sortirent en foule pour le braver, et même des grands-mères, et même des enfants, et surtout des enfants, et même des bébés. Et tous ces gens ne parlaient même plus de lui, du temps, du froid. Ils s'en fichaient. Il aurait pu pleuvoir, venter, grêler, inverser, orager. Il s'en fichait. Il aurait pu neiger. Cela n'aurait fait que rendre les passants encore plus heureux. Comme quoi le temps n'est pas une fatalité. Les gens portaient des bonnets, des écharpes, des gants, des bottes de toutes les couleurs. Les magasins étaient grands ouverts. Les rues sentaient le pain d'épices, les marrons chauds et le chocolat. On croisait des ânes, des automates, des Pères Noël. Les enfants couraient de l'un à l'autre et on ne les en empêchait pas. Les gens sortaient du travail mais n'étaient pas fatigués. Les gens avaient des tas de choses à faire mais n'étaient pas pressés. Les gens n'avaient plus d'argent mais dépensaient. Il faisait nuit et froid mais les gens souriaient. Comme quoi avoir le moral dans les chaussettes n'est pas une fatalité.
« Quel temps !»
dit Camille en entrant dans la salle des fêtes. Il était le dernier, mais comme il était le maire, il était excusé. Camille était rond et rouge, très rouge aujourd'hui, mais c'était à cause du temps. Très rond par nature. Une figure ronde, un gros nez rond, un ventre rond, de gros doigts ronds et surtout un caractère rond, un rond immense comme le cercle de ses amis. Un caractère à arrondir les angles. Un caractère à aimer la terre entière, puisque elle aussi est ronde. Camille aimait tout le monde, et tout le monde le lui rendait bien. Camille avait compris depuis longtemps que la gentillesse était de l'investissement à long terme. Pour cela, il pouvait se permettre d'arriver en retard.
« Joyeux Noël !»
lança le maire à la cantonade.
« Joyeux Noël !»
répondirent en se retournant la dizaine d'habitants du canton assis sur un banc, emmitouflés, grelottant. Une salle des fêtes, c'est impossible à chauffer. Cosima était seule à être debout, à côté d'un tableau blanc, seule à ne pas être emmitouflée. Cosima fut la seule à ne pas répondre « Joyeux Noël ». Elle regarda sa montre. Cosima était la présidente du comité des fêtes. Cosima Redzinski. Cosima vivait comme un film que l'on passerait en accéléré. Cosima courait sa vie. Elle était présidente du comité des fêtes, de l'association des parents d'élèves, du catéchisme, du secours quelque chose, du club de philatélie, de l'école de musique, du comité d'entreprise, du comité des anciens, de l'association des jeunes. Elle était partout, et partout où elle était, elle décidait de tout. Mais ne vous y trompez pas, Cosima ne remplissait pas sa vie de toutes ses activités, parce qu'elle n'avait personne à aimer. Il existait un monsieur Redzinski. Enfin, il devait bien exister un monsieur Redzinski, puisqu'il existait une demi-dizaine d'enfants Redzinski et déjà plus d'une douzaine de petits-enfants Redzinski. Cela faisait d'ailleurs dire aux mauvaises langues que pour Cosima, s'occuper de l'arbre de Noël et des cadeaux n'était pas tout à fait désintéressé.
« Tout le monde est prêt ?»
demanda Cosima. Elle se retourna vers le tableau blanc armé de trois feutres, un rouge pour les horaires, un bleu pour les prénoms, un vert pour les numéros.
« Bien, on commence comme tous les ans par le spectacle des enfants de l'école. 15 heures. Ma petite Béa, tout est au point. »«
Oui, oui, Cosima, »
répondit Béatrice de sa voix timide d'institutrice en récréation.
« Ma chérie, c'est quoi exactement ton spectacle ? Mon petit Cyril n'a rien su me dire.
C'est l'Arche de Noé.
L'Arche de Noé ? À Noël ?
Ben oui, tous les enfants seront déguisés en animaux dans une grande arche.
Eh bien, Béa, pourquoi est-ce que vous n'appelez pas cela l'Arche de Noël ? »
Sourire dans l'assistance. Béa se rassit, pensive.
Après tout, c'était vrai.
Cela ne faisait qu'un L et deux trémas à ajouter sur les affiches.
C'est joli, les trémas.
Beau comme un point sur un I. Deux fois plus beau, même.
Bon, ensuite, 16 heures.
Elle nota en rouge.
Les clowns. Lulu, vous en êtes où?
Trois compères hilars se levèrent. Lulu, le facteur au milieu. Mimi, le charcutier à gauche. Jojo, le boulanger à droite. Tous les trois étaient membres très actifs du comité des fêtes. Après la magie et les marionnettes, cette année, ils s'essayaient au clown.
« Ça roule, Cosima !»
répondit Lulu. Et les deux autres rirent à côté.
« Si ça roule comme en répétition, ça va rouler !»
ajouta Mimi.
« Ça, si vous rigolez autant que nous à l'entraînement !»
ajouta Jojo. Et les trois clowns explosèrent dans un grand rire.
J'espère bien,
continua Cosima sans rire. Elle reprit le stylo rouge.
17 heures après le goûter, les cadeaux, le Père Noël.
Elle regarde en direction de Loulou, les boueurs, même si on dit aujourd'hui chargé de l'entretien de la voirie. Loulou lui répondit en lui clignant de l'œil.
Enfin, reprit Cosima, vers 18 heures, pour finir, Camille le discours.
Camille répondit par un ronronnement, enfin plutôt un ronflement. Il dormait depuis quelques minutes, mais tout le monde l'excusa, non seulement parce qu'il était maire, mais surtout parce qu'il était assis à côté du seul radiateur de la pièce.
« Et le sapin ?»
demanda un conseiller anonyme dans la salle.
« Il arrive demain matin !»
précisa Cosima en se frottant les mains.
« On a commandé le plus grand !»
Quelques jours avant, dans une forêt très loin de là, Grand Chef scruta avec horreur le ciel blanc. Il était le seul. Tous les autres, tous ses frères sapins, attendaient la neige avec impatience. Quoi de plus beau qu'un sapin sous la neige? Quoi de plus beau qu'une forêt de sapins sous la neige? Un paysage de bonnes nouvelles griffonné sur une carte de vœux. Bien sûr, dans le paysage de Grand Chef et de ses frères sapins, même avec la neige, il manquait la montagne. Grand Chef et tous ses frères sapins vivaient en plaine. Pas la moindre petite colline à l'horizon, une forêt plate, tous plantés à la même altitude, à la même date, à la même hauteur. Comme une grande haie, une immense clôture enroulée sur elle-même. La forêt la plus artificielle possible. Un millier de petits sapins, tous pareils, tous rieurs, tous gais, tous gamins, qui n'attendaient que les boules de neige. Tous pareils, sauf Grand Chef. Grand Chef était un phénomène. Grand Chef était deux fois plus grand que tous les autres sapins. Grand Chef dominait la forêt et la plaine, tel un berger landais perché sur ses échasses qui veille sur son troupeau. Grand Chef avait 2 ans, alors que les autres sapins n'en avaient qu'un. Bizarre. Pourtant, ce n'était pas sa taille ni son âge qui le rendait si différent de tous ses frères. Non, c'est parce qu'il savait. Ça rendait Grand Chef triste, sinistre même, au milieu de l'immense bavardage de ses frères. Il savait. Il l'avait vu de ses propres yeux l'année dernière, quand la neige était tombée, quand la neige était venue. Les hommes aussi étaient venus. Les premiers de ses frères furent enlevés avec leurs racines. Puis les hommes revinrent avec des tronçonneuses. Et ils coupèrent en une journée, une seule, la forêt entière, malgré la neige. Le crime des bûcherons demeura secret. Aucun écho de montagne n'était là pour amplifier les cris des tronçonneuses, pour prévenir la nature entière de la vallée au sommet qu'un meurtre se commettait. Le cri des tronçonneuses se perdit dans la plaine, comme un murmure. Puis les hommes disparurent, ne laissant que des troncs ras et des traces de pneus larges. Quelques minutes après leur départ, la neige complice avait dissimulé toute trace du passage des assassins. Il ne restait qu'une vaste plaine blanche que le vent pouvait désormais traverser tout chousse. Mais aucun crime n'est parfait. Dans leur hâte, les bûcherons avaient oublié un sapin, un seul, dans un coin. Pourquoi ? L'erreur, comme l'horreur, est humaine. Et le sapin, unique témoin, immaculé, miraculé, resta seul. Puis vinrent ses frères, d'autres frères, bébés. Il les vit grandir de haut. Naturellement, ses frères le baptisèrent Grand Chef, fier. Grand Chef savait, et il le dit à ses frères. Unique témoin, il raconta, il prévint, il annonça la neige comme une malédiction. Les hommes allaient revenir avec leurs camions et leurs machettes. Aucun de ses frères ne le crut. On n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure lorsqu'on vient juste d'être planté. Surtout quand on est un sapin. Le sapin regarde avec mépris les autres arbres qui se retrouvent nus l'hiver. Le sapin, lui, se fiche des saisons. Le sapin se croit immortel. Les sapins de la plaine décrivaient les hommes sans hache. Les hommes surveillaient pour eux le ciel et la terre, l'eau et le feu. Les jeunes sapins avaient confiance en eux, une confiance maternelle. En cas de doute, on préfère toujours croire au bonheur qu'au malheur. Aucun de ses frères ne crut Grand Chef. Alors le venin monta en lui, une immense colère venimeuse, la colère d'avoir vu partir ses frères passer, la colère de savoir ses nouveaux frères condamnés, la colère égoïste de se savoir lui-même condamné, la colère de devoir porter seul ce secret, la colère de n'être même pas cru, de n'être même pas pris au sérieux, d'être si triste au milieu des rires. Le poison monta en son tronc. Une sève noire macéra pendant 1 an, telle la potion d'une sorcière, bouillonnante, fumante, montant du tronc aux branches, des branches aux aiguilles. 1000, 10 000 aiguilles trempées dans sa méchanceté emprisonnée, comme 10 000 flèches empoisonnées, une pour chacun de ses frères tombés, sapin venimeux. Grand Chef scrutait le ciel blanc avec terreur. Il avait tort. Les bûcherons revinrent, mais rusés, ils revinrent avant la neige. Grand Chef avait raison, murmura la forêt perdue. Les hommes vinrent en avance, à moins que ce ne soit la neige qui arrive en retard. Ils emportèrent les premiers avec leurs racines, Grand Chef appartenait à ce voyage, et fauchèrent les autres, laissant derrière eux bien visible la marque de leur crime qu'aucun drap blanc cette année ne recouvrait.
Grand Chef savait, il avait raison,
murmurèrent quelques survivants dans un camion en route vers une destination inconnue. Ici, qui voit Manu, voit Manou. Manu et Manou, c'étaient des copains d'enfance. Des copains d'école, si vous préférez. Sauf qu'à l'école, ils n'y allaient pas souvent et que c'est justement pour ça qu'ils étaient devenus copains. Alors, Manu et Manou, c'étaient deux copains d'école buissonnière, si vous préférez. Sauf qu'autour de l'école du quartier, il n'y avait pas beaucoup de buissons. Alors, Manu et Manou, c'étaient des copains d'école goudronnière, si vous préférez. Des inséparables. Des complices avec tout ce que le mot complice sous-entend de bêtises en commun. Manu et Manou partageaient tout. Aujourd'hui, ils partageaient aussi leur salaire à la mairie. Par exemple, ils avaient la mission de convoyer le sapin devant l'estrade de la salle des fêtes. Facile, à deux en plus. Sauf quand ils virent le morceau du sapin, le plus grand. Elle n'avait pas menti, la cheftaine, la reine-mère Cosima. « La vache !» siffla Manu. Manou se marra. « On y va ? Tu prends la tête ? Tu prends la queue ?» Manu retira ses gros gants municipaux. Il le regretta. Il le regretta longtemps, ce geste. Mais il ne pouvait pas se douter, surtout un jour de Noël. Il souffla sur ses doigts et saisit d'une poigne ferme, à pleine main nue, la tête du sapin. Le quartier entendit une dernière fois passer l'attelage, mi-bœuf, mi-âne, traverser les rues encore mal réveillées, en beuglant un récital de chants de Noël arrangé version bitume. Le chœur entonnait encore Jingle Bell en entrant dans la salle des fêtes, Manu en tête, Manou en queue. Le vent claqua la porte de la salle des fêtes, et les rues se retournèrent sur le côté pour redormir encore un peu. Une, deux, cinq minutes plus tard au plus, Manou ressortit en tête, baissé, silencieux, sans réveiller personne à part les habitués du petit matin, en claquant la porte du café des amis, à droite de l'église, à gauche de la mairie. Une, deux, cinq minutes plus tard au plus, Manu ressortit à son tour, en queue, sourcils froncés, fonçant dans la rue, enfonçant la porte du café des copains, à droite de la mairie, à gauche de l'église. Manu et Manou ne se revirent plus. On ne sut jamais ce qu'il s'était passé ce matin-là dans la salle des fêtes. Ce matin-là, ils burent tous les deux beaucoup pour oublier. Et ils oublièrent. Ils redevinrent amis longtemps après, mais plus jamais complices. 15h05, le grand jour. Cosima rayonnait. Elle jouait les ouvreuses, elle jouait les videuses, elle jouait les caissières, elle jouait les metteuses en scène et les metteuses en siège. Elle zigzaguait dans la salle des fêtes pour que tout tourne droit. Elle distribuait pêle-mêle des sourires, des places gratuites, des programmes, des vœux, des remontrances tendres aux retardataires, des ordres souriants au petit personnel. Elle menait la cérémonie à sa baguette. 15h. Le grand orchestre de Noël était en place. Cosima tapota sa montre. Elle regarda au ciel l'étoile du grand sapin. Pour un grand sapin, c'était un grand sapin. À la pépinière, pour une fois, il ne s'était pas moqué d'elle. Elle se retourna vers le rideau pour effectuer un rapide signe de croix, s'enroula de son sourire. Elle était prête. Cosima fixa alors Béa, invisible du public, cachée en coulisses. Elle la fixa bien dans les yeux. Elle lui mit la pression. Elle hocha la tête, ce qui voulait dire « À toi de jouer, ma petite. Le public est impatient, mais moi, surtout moi, ne me déçois pas !» On déroula en fond de scène une grande affiche. L'arche de Noël. Noé en noir et le L en blanc en forme d'aile. Le E en noir et les deux points au-dessus en jaune d'or, un plein soleil et une pleine lune. Cosima eut le sourire triomphant. L'arche était représentée au milieu de la scène par un immense bric-à-brac, un radeau de fortune, enfin plutôt un radeau de misère, un empilement de chaises, de tables, de vieux meubles, de poubelles. Une horloge éventrée tenait le rôle de la proue. Un porte-manteau bancal, celui du mât. De vieux cadres ovales jouaient les hublots. L'assistance frémit devant tant d'originalité. Alors les enfants parurent, plus maquillés que déguisés.
on reconnut Maximilien en lion, Malika en tigresse, Peggy en perroquet, Dico en panda, Enzo en ours, Mégane en colombe, Corentin en papillon. Des chaises grincèrent, des doigts se tendirent, des flashs crépitèrent, des parents chuchotèrent, des grands-mères lancèrent en direction des artistes des coucous humides. Chant, scénette, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes des animaux. Jusqu'à l'orage, jusqu'au déluge, la lumière se tamisa. Quelques spots firent jaillir deux ou trois éclairs plus vrais que nature. Oh ! Tout d'un coup, clou du spectacle, l'eau se mit à monter sur scène. Centimètre après centimètre, les spectateurs voyaient l'eau monter jusqu'aux chevilles des animaux, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, jusqu'au cou. Alors les animaux paniqués se réfugièrent sur l'arche de briques et de broc. L'orage s'éteignit. Les eaux cessèrent de monter. L'arche flottait sur scène. Pourtant, le déluge n'était pas tout à fait terminé. Un tonnerre d'applaudissements salua la mise en scène. Cosima eut le sourire comblé. Au fond de la salle, Camille ouvrait des yeux ronds d'enfant émerveillé qui ne comprend pas et ne veut surtout pas comprendre. Béa volait avec les anges. Elle lança un baiser aérien à Gabi, son homme, lui aussi dissimulé dans les coulisses. Gabi, son héros, son vitrier adoré, son laveur de carreaux, son Tarzan des gratte-ciels. Pour lui, installer deux grandes plaques de verre, espacées de quelques centimètres sur l'avant-scène, n'avait pas été bien difficile. Par contre, rendre l'espace entre les deux plaques étanches, tel un double vitrage géant, lui avait pris la matinée. Mais quel effet ! Avec quelques litres d'eau, il offrait l'illusion de noyer la scène. Chant, scénette, tout se passait pour le mieux sur la meilleure des arches. Alors les eaux baissèrent, la scène sécha. Les animaux décidèrent d'envoyer Mégane, la colombe, reconnaître ce monde mouillé, lavé, en théorie plus blanc qu'avant. Dans l'arche de Noé, il est prévu que la colombe aille cueillir un rameau d'olivier. Dans l'arche de Noël, il était convenu que la colombe cueille une branche de sapin. Mégane, face d'ange à peine maquillée, descendit avec précaution du radeau, contourna la scène, volta tout sourire vers le grand sapin, arracha une branche toute scintillante de paillettes, ne grimaça pas au contact des aiguilles. La salle entière baignait dans la chaude poésie, et Mégane, experte, leur en redonnait. Il lui suffisait de sourire à la salle et la salle entière se sentait en harmonie. Brusquement, le sourire de Mégane se transforma en grimace. Une grimace pour la salle, puis se retournant, une grimace pour l'arche. L'instant suivant, comme convenu, elle revint vers l'arche, branche de sapin au poing, aiguille plantée dans la main. Mais au lieu de contourner la scène comme prévu, elle fonça droit vers l'arche, tout droit, comme une folle qui ne saurait même plus avancer en diagonale. Mégane la colombe fonça droit vers l'arche et s'écrasa contre le mur invisible, fauché en plein vol. Le mur de verre se fissura de haut en bas en un mince fil noir. Béa se figea, Enzo se précipita, Cosima cria « Mon Dieu !» Camille hurla « Nom de Dieu !» Mais grâce à un dieu pas trop débordé ce soir-là, il devait peut-être tourner en rond en attendant des nouvelles de la crèche, la colombe n'avait rien. Elle revint à elle, doucement. La colombe s'en tirait un comble avec un énorme œuf de pigeon sur le front. La foule pressa Mégane de « Qu'est-ce qui t'a pris ?» Mais elle ne répondait rien. On évacua de la scène verre, bois et fer. Cosima eut le sourire cassant. Dehors, Béa pleurait. Autour d'elle veillait un papillon, un perroquet, une tigresse, un panda, au maquillage délavé. Elle ne savait pas que ses larmes étaient les premières du déluge de Noël. Le vrai. 16h, les clowns. Cosima eut le sourire intransigeant. 16h15, Lulu, caché dans les coulisses, se marrait comme un gamin. Plus qu'un gamin, plus encore que les gamins du premier rang. Lulu profitait d'être dans les coulisses pour rigoler, parce qu'il jouait le clown blanc, et le clown blanc, justement, c'est celui qui ne rit pas souvent. C'est le clown qui doit garder son sérieux, même quand Jojo s'est pris sur la tête la tarte à la crème, même quand Mimi l'a lavé à coups de seau de confetti, même quand tout le monde éclate de rire dans la salle, du premier rang au dernier, même Camille au fond, Lulu le voyait, rigolait comme un gosse. Il n'y avait guère que Cosima qui ne se décoinçait pas, et encore, elle souriait, parfois. Mimi, sur scène, prit son élan. Jojo, penché, lui tournait le dos, les fesses en l'air. « 1, 2 !» scanda la salle. Jojo, idiot, n'entendait rien. En coulisses, Lulu se reconcentra au tout dernier moment et saisit la baguette. « La cymbale, nom d'un chien ! J'ai failli oublier la cymbale !»« 3 !» hurlèrent petits et grands. « Cling !» Lulu frappa son coup de cymbale en parfaite coordination avec le coup de pied de Lulu dans le derrière de Jojo. Jojo s'en donna lui aussi à cœur joie. Il se laissa glisser sur le ventre et traversa toute la scène jusqu'à aller s'échouer dans le sapin. « Oui !» se dit Lulu en explosant une nouvelle fois de rire. « Cet idiot va se piquer !» Jojo se releva. Il devait faire semblant d'être en colère. « Il fait drôlement bien semblant, Jojo !» se dit Lulu admiratif. Attention, à 3, c'était au tour de Jojo de faire semblant de donner un coup de pied à Mimi. « Allez la salle, avec nous !»« 1, 2, 3, cling !» Lulu fut surpris. Il avait rarement vu le coup de pied aussi bien imité. « Hé, les copains, on devient bon !» Mimi devait faire semblant d'avoir mal. Il se frotta le derrière en grimaçant, comme s'il souffrait réellement. « Super, Mimi !» pensait Lulu. « On s'y croirait !» Les enfants au premier rang applaudissaient à tout rompre. À ce moment-là du sketch à 3, Jojo devait saisir en douce un balai et faire semblant d'en donner un coup à Mimi. « Attention ! La salle, avec nous !» 1, 2, paf! Lulu resta la baguette en l'air, pris de vitesse. Hey, Jojo, c'est à 3 qu'on tape, pas à 2. Qu'est-ce qui te prend? D'accord, le coup de balai était parfait. On aurait réellement dit un vrai. On aurait pu jurer que Mimi se l'était vraiment pris en pleine tête. Mais c'est à 3 qu'on tape. Les enfants s'en fichaient et firent un triomphe. Alors Mimi alla à son tour prendre un balai. En coulisses, Lulu paniquait. « Hé, les copains, attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est pas prévu, ce deuxième balai. Prévenez-moi si vous improvisez. »« Attention, derrière !» hurlèrent les enfants. Le balai de Mimi surprit Jojo en plein dos. « Cling !» fit Lulu, sans bien comprendre pourquoi. Jojo se releva. Les deux clowns entamèrent un combat de kendo sur scène. Lulu n'assurait plus, il ne savait plus où donner de la cymbale, les coups pleuvaient. « Stop les copains, trop c'est plus rigolo !» Même si les enfants, eux, ne s'en lassaient pas. « Génial, les clowns ninja !» Jojo et Mimi lâchèrent les balais, ils en vinrent aux mains. « Génial, les clowns karatéka !» La plupart des adultes commencèrent à trouver le spectacle d'un goût douteux. Cosima eut le sourire inquiet. La veste de Mimi craqua. « Non, là, les gars, vous charriez !» paniqua Lulu. « Une veste louée 50 €!» Jojo et Mimi en vinrent au point. Ce n'était plus normal, plus du tout. Lulu fonça sur scène pour intervenir. Il se prit lico un coup sur son nez de clown blanc devenu rouge. Mais ce ne fut pas très drôle, puisqu'il n'y avait plus personne à la cymbale. Néanmoins, les enfants, eux, hurlaient à chaque rebondissement. « Génial, les clowns boxeurs !» Debout, la moitié d'entre eux scanda le nom de Jojo, l'autre moitié, celui de Mimi. Jusqu'à ce que les autres adultes interviennent. Ils séparèrent les deux clowns et les emmenèrent de force hors scène, non sans avoir hérité eux aussi de quelques coups de poing, de pied, de balai. Quelle mise en scène ! Debout sur les bancs, les enfants acclamaient la sortie des clowns. Cosima appela aussitôt Lulu.
« Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est ça votre spectacle pour enfants ?»«
Je ne comprends pas. C'est Jojo, il est comme fou.
C'est peut-être Mimi qui lui a donné le premier coup de pied aux fesses, un peu trop fort. Mais Mimi dit qu'il a vraiment fait semblant. C'est bizarre, ça ne ressemble pas à Jojo de se mettre dans des états comme ça. Surtout un jour de Noël.
Dis donc, Lulu, coupa Cosima. Il n'est que 4h30. Le goûter n'est prévu que dans une demi-heure. Mes brioches ne sont pas chaudes et les gosses sont bouillants. Alors débrouille-toi pour les faire patienter.
Qui ça, moi?
Vous aviez prévu une heure de spectacle, non?
Mais je suis tout seul.
Et alors, tu n'as qu'à leur raconter une histoire.
Une histoire? Cosima, tu as vu les fauves?
La faute à qui, Lulu? Calme-les. Débrouille-toi, c'est toi le clown blanc.
Une histoire. Lulu se creusa la cervelle, jaune et dégarnie pour l'occasion. Une histoire de Noël? Une histoire belle et calme? Il savait bien les raconter dans le temps. Allez, tant pis, s'il faut improviser. Il remonta sur scène, debout.
« Vous aimez les histoires, les enfants ?»
Tonnerre de « Oui !» Lulu eut une inspiration. Il fit baisser les lumières et il fit installer tous les enfants en arc de cercle autour du sapin. Lui-même s'assit devant eux au pied du sapin.
« Facile !» se dit Lulu. « Je te les ai calmés, facile !»
Les gamins, je me les mets dans la poche.
Quand je veux.
En plus, il venait de se souvenir d'une belle histoire bien cucu la praline, début haut de rose et fin en jus de boudin, bien comme il fallait pour plaire à Cosima, bien comme il fallait pour faire passer la baston de tout à l'heure. Il s'installa bien confortablement, le derrière par terre.
Ouille!
Fit-il. Il regarda. Ce n'était rien, juste une aiguille de sapin qui lui avait piqué les fesses. Il se mit à parler doucement aux enfants et aux parents, bouche bée, oreille bée surtout, car c'est vrai que Lulu racontait très très bien les histoires. C'était Noël. Thomas n'avait pas le sou. Thomas aimait Marie-Lou. Marie-Lou aimait les bijoux. Mais Thomas n'avait pas un sou. Dans la grande rue pavée, chez Monsieur Toc, le bijoutier, Marie-Lou en avait souvent rêvé. 100 €, le collier doré. Noël était attendu demain. L'hiver blanchissait. Tout allait bien. Thomas enfila des habits d'arlequin, se maquilla en clown, sortit au matin. Dans la grande rue pavée, il amusa les passants. Les grands riaient un court instant. Les enfants criaient plus longtemps, pièce par pièce. Tous donnant. Dans la grande rue pavée, tomba la nuit complète. La boutique de Monsieur Toc était la dernière ouverte. Mais Thomas ne comptait que 90 € dans l'assiette. Les gens chez eux au feu, la rue était déserte. Alors, Thomas des larmes de glace pleura. Le maquillage dégoulina de froid. Un enfant pressé passa, s'arrêta, ému. 10 €, il déposa. Thomas leva les yeux au miracle des étoiles du soir, courut essoufflé chez Monsieur Toc, dans le noir, éclairé d'espoir. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard, entra, claqua la porte, cria « Bonsoir !» Monsieur Toc était fatigué. 100 clients, il avait vu passer. Monsieur Toc était excédé. 3 fois en 3 mois, il fut cambriolé. Monsieur Toc était alerté, à chaque fois des hommes déguisés, masqués. Monsieur Toc était équipé. Sous sa caisse, il cachait un pistolet. La porte claqua, un clown entra, Monsieur Toc le tua. Stupeur indignée au fond de la salle. Mère choquée, père choqué, grands-parents choqués, bébé choqué. Monsieur le maire, estomaqué. Cosima eut le sourire coupé. Seuls les enfants firent une nouvelle fois un triomphe à Lulu. Surtout les garçons. Lulu le héros. Ça, c'est du conte de Noël. Du conte comme on en voit à la télé. Pas du conte comme on nous raconte chez Mémé. Pour Lulu, hip hip hip. Une odeur de brioche dorée sauva la mise à Cosima. Elle s'activa pour convaincre les parents qui menaçaient de partir sans attendre le Père Noël de rester encore un peu. Seule Camille restait tranquille. Tranquille comme Camille, comme on disait dans le quartier. Des Noëls, il en avait vu. Tous identiques. Alors un Noël un peu différent,
C'était plutôt rassurant. Et tout s'arrangerait avec l'arrivée du Père Noël. Tout s'arrange toujours avec l'arrivée du Père Noël.
C'est son boulot.
Tout arrangé. Il n'a que ça à faire de toute l'année. Alors il peut assurer. Camille avait une confiance absolue dans le Père Noël. Surtout son Père Noël. Cosima également. 17h. Les enfants se rassirent. Une barbe blanche, une silhouette rouge frappa au carreau. Les enfants se relevèrent la bouche encore pleine de brioches. Des applaudissements nourris saluèrent l'arrivée du Père Noël qui alla s'installer en face des enfants sur un tabouret, loin, très loin, à l'opposé du sapin. Corentin, de son banc, regarda le Père Noël. Bizarre, le Père Noël ressemblait à Loulou, son ami l'éboueur. C'était la grande fierté de Camille, un Père Noël noir. Il avait fait sa petite enquête, il était le seul maire à inviter un Père Noël noir, le seul maire du département, peut-être même le seul maire de France. Le Père Noël appela les enfants un à un. Les enfants devaient aller chercher leurs cadeaux accrochés dans le sapin. Cosima eut le sourire serein. Dico alla la première décrocher son cadeau au milieu du sapin, se piquant un peu en écartant les aiguilles. « Tiens, un livre !» Pour Dico Dico, ça tombait bien. Cosima avait bien fait les choses. Elle s'était renseignée auprès de Béatrice. Elle connaissait les goûts de chaque enfant. Dico se figea d'un coup.
« Robinson Crusoe, je l'ai déjà. Je l'ai lu 5 fois. En plus, c'est nul, il ne se passe rien. Des bouquins, toujours des bouquins. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit à des jeux, moi ?»
Elle retourna s'asseoir en bougonnant. Malika fut à son tour appelée à se suspendre aux branches du sapin. Elle déballa un sac à dos.
J'en étais certaine. L'année dernière, mon frère a eu le même. Et Abdel aussi, il y a 2 ans. Et Kader, il y a 3 ans. Vous écoulez vos stocks? Remarquez, mieux vaut en avoir plusieurs pour ce qu'ils sont solides, vos sacs poubelles.
Elle retourna s'asseoir furieuse. Drac fut appelé à son tour. Il décrocha difficilement un cadeau rectangulaire. Une tablette.
Au moins, lui sera content,
se rassura Cosima.
Peyo, c'est quoi cette marque? C'est une tablette pour les Schtroumpfs?
Le Père Noël resta impassible. Cosima eut le sourire crispé. Sa main la démangeait, une démangeaison de mère outragée. L'envie picotante d'en coller une à toute la classe. Peggy eut un stylo. Mais elle clama qu'elle s'en fichait, qu'elle ne se servait que de son ordinateur, qu'un stylo c'était ringard. Et puis, de toute façon, ce n'était pas un vrai cadeau, puisque l'on s'en sert pour l'école, comme quand on offre des casseroles à maman. Enzo eut des rollers, mais certifia qu'ils étaient trop petits pour lui, et qu'en plus, ils avaient des roulettes roses. Est-ce qu'il avait une tête à aller au skatepark avec des roulettes roses? Qu'il ne les mettrait jamais? Qu'il se demandait si l'on ne se fichait pas un peu de lui dans ce quartier et que les cadeaux de l'usine de son père étaient vachement mieux. Le Père Noël, imperturbable, continuait d'énumérer les prénoms des enfants. Il n'y avait plus que Corentin qui n'avait pas eu son cadeau. Cosima n'avait plus le sourire du tout. Camille se décida alors à intervenir, à avancer de quelques minutes son discours, histoire de remettre les points sur les i, et les trémas sur les E. Calme, détendu, paisible, Camille s'avança. Même sans barbe blanche, même sans costume rouge, Camille aurait pu faire un excellent Père Noël.
« Non, les enfants, je ne vais pas vous enguirlander, même si c'est Noël. »
Sourire dans la salle, Camille assurait. Camille allait récupérer la situation. Camille allait sauver la fête. Cosima eut le sourire soulagé. Camille enchaîna, expliqua aux enfants que, vu leur nombre, la commune ne pouvait pas leur payer à tous un cadeau très coûteux, que c'était le geste qui comptait. Il enchaîna pour les parents, en rappelant que lui n'avait pas augmenté les impôts. Puis continua, sautant du bœuf à l'âne, en s'excusant de parler d'argent et de politique un jour de Noël, surtout à des enfants. Que Noël devait être joie, paix pour tout le monde, pour toute la terre, comme une immense boule lumineuse. Et comme il aimait les rondeurs, il voulut insister.
il voulut en rajouter. Il voulut expliquer ce que tout le monde avait déjà compris. Il voulut prendre un exemple et attrapa une boule lumineuse du sapin. Forcément, il se piqua à la première aiguille. Il lâcha en même temps la boule et un « merde !» La boule lumineuse explosa. Une boule de Noël, c'est plus fragile encore qu'une baudruche.
« Merde !» lâcha une seconde fois Camille.
Le maire releva alors les yeux sur le public, surpris.
« Le discours est terminé !»
déclara le maire.
« La fête est terminée ! Bonsoir tout le monde !»
Surprise et murmure dans l'assistance. Personne ne bougea.
« Vous attendez quoi ?»
continua le maire sur le même ton. Silence de mort dans la salle. Personne ne bougea. Encore moins.
« Vous attendez quoi ? Vous avez eu vos surprises. Vous avez eu votre spectacle. Vous en voulez encore ? Le prochain accident ? Le prochain scandale ? Vous ne voulez pas le lire dans le journal ? Vous voulez le voir de vous-même ?
Camille, tais-toi ! Qu'est-ce qui te prend ? Tu as perdu la tête ?»
C'était Cosima qui, pour la première fois de l'après-midi, intervenait sur scène. Cosima avait-elle touché le sapin ? Je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Je n'ai pas fait attention. Je regardais ailleurs.
« Toi, Cosima, ne te mêle pas de ça !»
poursuivit le maire, hors de lui.
« Camille !»
gémit Cosima, montée sur l'estrade.
« Je t'en supplie, arrête ! Tu as perdu la tête ?»«
La fête est terminée pour toi aussi, Cosima. Dommage, tu rêvais tant de devenir maire à ma place !»
« Camille, tu es fou !»
Il y avait presque de l'amour dans la voix de Cosima, de l'amour dépité.
« Foutez-moi le camp !»
hurla le maire.
« Restez !»
répliqua aussitôt Cosima.
« Dis-leur de rester, Camille, je t'en supplie !»«
Tirez-vous tous !»«
Camille, retiens-les, retiens-les !»
supplia Cosima.
« Camille, cette fête, c'est ma vie. Tu n'as pas le droit de tout gâcher !»
Camille eut un sourire de défi, un sourire qui semblait dire « Ça te fait tout drôle, ma chère Cosima, que l'on puisse te désobéir. » Le public, lui, les observait, passionné. Pour une fois que lors d'un arbre de Noël, il y avait un numéro pour les grands.
« Camille, retiens-les, excuse-toi »
cria-t-elle une nouvelle fois. Alors Camille s'approcha de Cosima, et doucement déposa sur ses lèvres un baiser, aux yeux du monde, puis lui souffla dans le creux de l'oreille, cette fois-ci rien que pour elle, sans reprendre sa respiration.
« Joyeux Noël, ma chérie !»
Puis il sortit. La salle entière baissa les yeux, comme à la messe, quand le curé lève le calice pour pourtant le montrer à tous les fidèles. Tous les yeux se baissèrent, puis les gens se levèrent. Alors seulement la foule s'en alla, silencieuse, comme au sortir d'une messe de minuit où Jésus ne serait pas né. Il faisait nuit et froid sur le quartier. L'hiver les dévora. La lune brillait d'une pâleur de rancune. Dans la salle des fêtes désertée, au milieu d'une rangée de bancs vides, Corentin attendait, têtu. Lui seul n'avait pas eu son cadeau. En face de lui, sur son tabouret, le Père Noël noir le regardait de ses yeux de bille. Pour la première fois depuis plusieurs heures, la salle des fêtes était silencieuse. Alors, pour la première fois, Corentin entendit la voix du sapin. Il l'entendit éclater de rire, un rire de sorcier, un rire de savant fou qui a découvert l'arme absolue, un rire de maître du monde qui va appuyer sur le bouton qui le fait exploser. Le rire du méchant qui a gagné, le rire du petit qui a tué tous les grands, le rire du moche qui a tué tous les beaux, le rire de l'idiot qui a tué tous les intelligents. Puis il sembla à Corentin que le rire n'était plus aussi maléfique. Petit à petit, le rire devint un rire de farce bien réussi, un rire moqueur, un rire gratuit, un rire juste joyeux. Le rire de fou laissait place au fou rire. Les diamants du sapin ne scintillaient plus comme un trésor maudit, rien que des paillettes inoffensives, comme si un sortilège
s'était rompue.
« Je peux aller chercher mon cadeau ?»
demanda timidement Corentin au Père Noël.
« Maintenant tu le peux. Maintenant c'est terminé. Il n'y a plus de danger. »
Corentin se dirigea vers le sapin. Trois pas. Il s'arrêta.
« Que fait-on des sapins après Noël ?»
Le Père Noël ne répondit rien.
« On les jette à la poubelle ?»«
Non, Corentin, on les brûle, c'est la tradition. »«
Comme les sorciers ?»«
Oui, comme les sorciers. »
Corentin s'avança encore un peu vers le sapin et son cadeau. Trois pas. Il s'arrêta une nouvelle fois et réfléchit.
« Père Noël ?»«
Oui, Corentin. »«
C'est possible d'échanger mon cadeau ? Je te laisse mon cadeau ?» Et je prends le sapin à la place.
Pourquoi ?
Pour pas qu'on le brûle.
Et qu'est-ce que tu en feras de ce sapin ?
Je le replanterai dans la cour de l'école.
Tout seul ?
Non, je demanderai à Loulou de m'aider. Loulou, c'est mon copain. Il est aussi un peu jardinier et un peu sorcier aussi, je crois.
Les yeux de Bille du Père Noël brillèrent.
Père Noël ?
Oui, Corentin.
Si je prends le sapin, je peux aussi avoir les boules, les guirlandes, les étoiles qui vont avec.
Depuis ce jour, la nuit a déménagé. La nuit a quitté le quartier, banni, chassé, écœuré. Au cœur de l'école, au cœur du quartier, au cœur de l'hiver, le sapin géant, déguisé en Noël toute l'année, éclaire la ville comme un millier de réverbères.